L'Officine Universelle Bully présente Rituel historique de beauté. Épisode 1. Cassia a rendez-vous avec l'empereur. Rituel de beauté matinale de la jeune Cassia, en 10 avant Jésus-Christ, Rome. À Rome, cité de l'empereur Auguste, la belle Cassia ce matin-là s'éveilla en souriant. Un vent léger bruissait dehors, autour de sa belle demeure construite sur le mont Palatin, près du temple d'Apollon. Elle ouvrit les yeux dans son lit d'ivoire et de bronze, savourant le moment tout en écoutant s'éveiller le domaine. Son joyeux rêve de la nuit, toujours présent à l'esprit, lui paraissait un bon présage pour la journée à venir. La vie est une lutte de tous les instants à Rome, même pour une personne fortunée comme Cassia, qui, à 32 ans, avait toujours réussi à survivre. Aujourd'hui, elle était heureuse. Son existence s'apprêtait à prendre un tournant exceptionnel. Cassia risqua une tête hors de sa chambre à coucher. Ses yeux furent éblouis par le soleil qui envahissait l'atrium, faisant scintiller l'eau de la fontaine. « Toi là-bas, » dit Cassia, s'adressant à une servante à l'autre extrémité du patio. « Fais venir Phoebe immédiatement, je te prie. » Aussitôt, son ornatrix favorite Phoebe fut à ses côtés, portant le grand coffret de soins en bois de santal. Phoebe était connue dans tout l'Empire romain. Elle avait voyagé de Mauritanie en Mésopotamie, de Londinium à Alexandrie, depuis près de 40 ans au service des femmes les plus fortunées, recueillant connaissances en beauté et confidences de toutes sortes. Son grand coffret de soins était rempli d'arômes, de raretés, de merveilles d'Orient et d'Occident. Elle avait vu les plus beaux visages de tout l'Empire, les plus divers aussi, connaissait les secrets de chaque texture de peau et savait exaucer les vœux de ses femmes. Il y a quelques années, elle s'était installée à Rome pour le printemps et logeait dans la maison de Cassia en tant qu'ornatrix à demeure. Phoebe savait que Cassia était invitée ce même après-midi à accompagner l'empereur et sa famille aux courses de chars et qu'elle voulait faire grande impression dans l'illustre loge impériale. « Saloé Phoebe, comment allez-vous aujourd'hui ?» demanda Cassia. Puis elle ajouta avec un sourire malicieux. « Vous avez des nouvelles fraîches ?» Phoebe était une incorrigible commère, Cassia le savait. Où qu'elle aille, Phoebe avait toujours une oreille à la traîne pour récolter les derniers potins. « Oh oui, madame, » dit-elle d'un air espiègle. « Vous rappelez-vous du jeune Marcus, qui avait un grand faible pour vous il n'y a pas si longtemps ?»« Par tous les dieux, oui. » Marcus avait été si insistant, il avait envoyé des poèmes amoureux à Cassia et rôdé à la porte de sa maison à toute heure du jour pour l'apercevoir ne fût-ce qu'un instant. Il était charmant avec ses tristes yeux noirs, mais jamais il n'avait ému Cassia. À son grand soulagement, il avait enfin abandonné la partie. Qui persécute-t-il maintenant ? J'ai entendu dire qu'il s'était enfui avec Épia. Pas la femme du sénateur ? Celle-là même ? Comment supporter les glapissements de cette femme ? Vénus seule le sait. On dit que les deux ont mis le cap vers la Grèce. Le mari sénateur est fou de rage, naturellement. Il a divorcé d'elle aujourd'hui même et pense engager une plainte pour adultère. Cela coûtera très cher. On dit qu'il est si furieux qu'il a condamné la servante de sa femme à être mise à mort dans l'arène. Mélissa ? Cassia frémit. Elle savait que c'était enfantin, mais elle ne supportait pas la vue des exécutions dans l'arène. Elle ne s'était jamais passionnée pour les supplices infligés aux criminels, si imaginatifs soient-ils. Je suis certaine qu'Épia n'avait aucune idée de ce qui attendait sa servante. Peut-être. Et avez-vous entendu parler de Claudia et de sa querelle avec l'acteur Arbuscula ? Phoebe bavardait tout en disposant ses pots de crème. Sa mère avait été ornatrix également et lui avait transmis l'importance du soin de l'épiderme. Cassia se soumit au nettoyage de sa figure avec du lait d'anise qui donne une peau radieuse et dénuée de rides. Ensuite, Phoebe lui appliqua sur la peau une fine couche de miel dont on disait qu'il purifiait et sublimait le teint. Après avoir bien essuyé, elle passa sur le visage de Cassia un tonique composé de feuilles de rose et de pavot. Puis elle sortit un pot d'ossipomme, une graisse extraite de la laine de mouton. « Pouah !» s'exclama Cassia fronçant le nez. « Oui, madame, je sais, mais c'est efficace. » Phoebe lui rappela que la grande ville elle-même regorgeait de toutes sortes de mauvaises odeurs. Les crochets ancrés dans le sol à intervalles réguliers, le long des voies pour fixer les rigoles collectant l'urine, cassaient de temps à autre et répandaient leur contenu nauséabond sur le pavé. Les bouchers tuaient et démembraient les animaux devant leur échoppe, laissaient les entrailles à même le sol pour le profit de chiens affamés. Ces chiens errants ramassaient des restes peu ragoûtants de pauvres vagabonds qui mouraient dans les rues. Au marché ce matin, en route pour acheter un peigne orné de pierres pour sa collection, Phoebe se souvenait avoir vu un chien portant dans sa gueule une main humaine. Elle frémit en y repensant. Cassia grignota du pain et des olives pour le petit déjeuner pendant que sa peau absorbait l'onguent gras, prenant bien soin de ne pas en laisser tomber dans son gobelet de vin. Après avoir nettoyé l'onguent, Phoebe coupa les ongles de Cassia avec un couteau de toilette. En plus du lait d'ânesse, de la graisse extraite de la laine de mouton et du crottin de crocodile, d'autres produits d'origine animale étaient utilisés dans la Rome antique. Le teint des femmes était généralement abîmé par une mauvaise hygiène, la maladie, les effets du plomb et du mercure qui entraient dans la composition du maquillage. Certaines substances étaient déclarées efficaces pour obtenir un teint radieux. Les coquilles d'huîtres, réduites en poudre, lissaient la peau. Une mixture de graisse, de volaille et d'oignons effaçait boutons et impuretés. La graisse de cygne lissait les rides. La cendre d'escargot était censée faire disparaître les taches de rousseur. Des crèmes pour la peau confectionnées à base de graisse de jeunes truies ou des gelées composées de tibia de taureau contribuaient aussi à l'obtention d'un teint radieux. Puis venait l'hygiène dentaire. Cassia avait de la chance, ses dents, petites et régulières, n'avaient pas encore commencé à tomber. Jamais elle n'avait eu recours à de fausses dents comme beaucoup de ses amis, ou même, selon des rumeurs, comme l'impératrice Livia. Mais Cassia se disait que l'apparence de fouine de cette femme ne l'avait pas empêchée de séduire l'empereur Auguste, alors qu'ils étaient mariés chacun de leur côté. Était-il vraiment possible que Livia ait été enceinte de son premier mari le jour de son mariage avec Auguste ? Quel régal ! Il faudrait qu'elle se rappelle de le demander à sa cousine Pomponia, dont la précédente servante Glycera travaillait à présent dans la maison impériale. Il est si important d'avoir des amis bien placés. Phoebe tendit à Cassia pour se nettoyer les dents un pot de cornes d'animal en poudre et un bâtonnet de cédratier, dont le bout avait été broyé et effiloché. À une époque bien avant le fluor et les pratiques dentaires sophistiquées, les dents romaines étaient sujettes à beaucoup de maladies, de détériorations et d'usures. On pouvait acheter individuellement de fausses dents en os ou en bois, mais elles ne paraissaient pas naturelles et devaient être fixées aux dents voisines avec du fil d'or. On pouvait faire des poudres dentaires abrasives à partir de toutes sortes d'ingrédients, des coquilles, de la corne ou même du verre en poudre. La brosse à dents telle que nous la connaissons est venue bien plus tard. Les Romains, pour se laver les dents, utilisaient en principe un bâtonnet à mâcher, issu d'un arbre, petit bâton ayant été broyé et effiloché à l'une des extrémités. Après ce soin, Phoebe prit dans son coffret une tablette de césure ou carbonate de plomb. Elle en coupa un morceau avec son couteau de toilette, l'écrasa dans un mortier à l'aide d'un pilon et l'humidifia en ajoutant un peu de vinaigre pour obtenir une pâte qu'elle appliqua ensuite soigneusement sur le visage de Cassia. « Regardez comme votre peau est lisse et mate à présent, » dit Phoebe. Le carbonate de plomb était supposé avoir des vertus polissantes et purifiantes, ce qui est d'autant plus paradoxal que son utilisation prolongée dans les cosmétiques entraînait sans doute une détérioration accélérée de la peau. Toxique, la céruse faisait perdre rapidement au teint sa fraîcheur. Des recherches suggèrent que l'utilisation continue du carbonate de plomb rendait la peau blafarde, rugueuse, marquée et tachetée, pouvant même aboutir à une mort prématurée. Ainsi, cet ingrédient cosmétique ancien avait pour effet simultané de masquer le teint et de contribuer à sa destruction. « Quel rouge aujourd'hui, madame ?» demanda Phoebe. Cassia s'affairait à tourner la tête de ci et de là, pendant qu'un petit serviteur tenait devant elle un miroir de bronze. « Le crocodiléa, je pense », répondit Cassia. Phoebe sortit une petite boîte en onyx remplie d'une crème rougeâtre et dit « Ce rouge a été importé d'Égypte pour une coquette somme. Quoique, je me demande s'il ne sent pas plus mauvais encore que la graisse de mouton. Voulez-vous savoir quel en est l'ingrédient principal ? Je ne préfère pas, dit Cassia. Phoebe gloussa et appliqua la préparation de crottin de crocodile sur les joues de Cassia. Cassia songeait tout haut pendant que Phoebe s'activait. Je me demande si la reine d'Égypte en utilise. Je pense que Pomponia a une copie du manuel de beauté de Cléopâtre. Nous devrions lui demander de nous le prêter. Pourquoi voudriez-vous ressembler à ce serpent? Elle a causé assez de soucis à Rome. L'Égypte est très en vogue en ce moment, vous savez. Toutes les personnes importantes font peindre des fresques nilotiques dans leurs atriums. Ou bien en mosaïque sur le sol. Et regardez ce que mon père m'a offert. Elle montra son poignet. Sur une chaîne d'or pendait un minuscule scarabée en émeraude. J'adorerais avoir une copie de ce manuel de beauté. Pensez-vous qu'elle y révèle le secret qui lui a permis de séduire Marc-Antoine? Peut-être était-ce la façon dont elle maquillait ses yeux? Ou peut-être lui a-t-elle jeté un sort? Du col vert ou noir aujourd'hui, madame? Demanda Phoebe, ignorant résolument les propos de Cassia. Phoebe n'avait jamais fait confiance à cette reine d'Égypte. Cassia réfléchit. Elle portait une précieuse tunique de soie blanche, brodée de fil pourpre, avec une cape assortie. Le noir, décida-t-elle. Phoebe retira de son coffret le tube de colle en verre bleu cylindrique, le déboucha, et après avoir humecté le bâtonnet d'application en bois avec de l'huile parfumée, l'introduisit dans le cylindre. Elle le ressortit du fteux de colle et commença à dessiner le contour des yeux de Cassia. « Voilà, dit Phoebe, une déesse est née. » Le col, utilisé en Égypte ancienne, était fabriqué à partir de suie, de noir de lampe ou de sulfure d'antimoine, ou bien de malachite vert, une poudre de cuivre qui était d'un vert vif. Les Égyptiens croyaient que le col réduisait le risque d'infection oculaire, améliorait la mauvaise vue. Un œil entouré d'une ligne épaisse de col évoquait le symbole de l'œil d'Horus et avait donc le pouvoir de combattre le mal. Bien que les Romains n'attribuaient pas au col ces croyances, les femmes romaines utilisaient bien ce produit cosmétique. Le tube de col cylindrique était parfois divisé en compartiments pour les différentes couleurs et pour l'appliquer était également utilisée une huile parfumée. Et maintenant, vos sourcils. Ils me désespèrent, vous savez. Cassia cacha un sourire. Je sais, Phoebe. Utilisons les faux aujourd'hui. Longs et beaux, ils furent appliqués avec une colle glue, se rencontrant presque entre ses deux yeux. En touche finale, Cassia sélectionna un tout petit morceau de cuir noir en forme de croissant de lune. Celui-ci fut collé sur son visage, près de sa bouche. « Parfait !» s'exclama Cassia en se regardant dans le miroir. Phoebe l'aida à s'habiller, puis lui apporta un flacon de parfum. « Pas la rose aujourd'hui, Phoebe. Quelque chose de plus dramatique, » dit Cassia. « Celui de ce nouveau parfumeur Cosmos. » Cosmos était un grec arrivé en ville un été. Il avait établi sur le Vicus Incantarius la parfumerie la plus luxueuse. Le hall du magasin était peint et décoré de manière splendide. L'on pouvait s'asseoir et essayer divers parfums sur le dos de la main avant de choisir. Un jour, lors d'une de ses visites, Cassia avait aperçu l'arrière-boutique, là où des employés extrayaient les épices et triaient les pétales de fleurs, pendant qu'un autre mélangeait fiévreusement l'huile d'olive dans un chaudron pour la faire bouillir avant d'y inclure les ingrédients aromatiques. Les créations de Cosmos étaient chères et très en vogue à Rome à présent. Phoebe sélectionna un autre flacon et à l'aide d'un bâtonnet inséré dans le long cou de la fiole en tira un parfum épicé de cannelle, de myrrhe et de lys qu'elle appliqua au cou et aux poignets de Cassia. La senteur emplit la petite antichambre. Les modes de fragrance changeaient rapidement. Les ingrédients et onguents provenaient de tout l'Empire romain. De l'Orient venaient la myrrhe, l'oliban, le gingembre, l'acacia et l'huile de cannelle. D'autres ingrédients aromatiques exotiques populaires à l'Est étaient l'huile de moringa et le tespa, extrêmement coûteux. On évoque aussi comme parfum personnel le nard, un des plus anciens parfums d'Orient, l'huile de myrrhe et de safran. L'Égypte en général a toujours été connue pour ses huiles parfumées et aromatiques. Les plantes égyptiennes dont on extrayait des essences étaient le lys, le cèdre, la violette, le narcisse, la myrte et la rose. Certains parfums étaient à base d'huile et de liquide. D'autres ressemblaient plus à une pâte. Des poudres parfumées étaient aussi employées. L'huile parfumée n'était pas genrée, les hommes aussi bien que les femmes en utilisaient. L'emploi modéré de senteurs pour les deux sexes concernait les citadins civilisés. Les personnes qui n'en portaient pas étaient considérées comme rustiques et simples. Phoebe aida Cassia à se vêtir de sa longue tunique et de sa cape, puis la fit asseoir sur la chaise à dossier haut. « Comme d'habitude, madame ?» demanda Phoebe en saisissant un peigne d'ivoire. « Un peu plus bouclé aujourd'hui, je pense, » répondit Cassia. Phoebe sortit le calamistrum métallique et le plaça avec soin dans le brasero brûlant installé dans le coin de la chambre. Pendant qu'il chauffait, elle sépara les longs cheveux noirs de Cassia en deux parties et les noua dans un nœud carré sur le dessus de sa tête, le fixant avec le peigne orné de pierres acheté ce matin-là. « Attention, madame !» dit Phoebe en utilisant un tissu épais pour sortir des braises le calamistrum. « Ne bougez pas !» Elle commença à torsader les mèches de cheveux autour de la barre brûlante et il y eut bientôt un nuage de boucles sur la tête de Cassia. « Hum !» murmura Cassia l'esprit ailleurs. Elle étudia le contenu de sa boîte à bijoux et opta finalement pour une paire de boucles d'oreilles en or ornées d'une gerbe de perles qui tintait joliment dès qu'elle tournait la tête. Et choisit un élégant collier de perles et d'émeraudes simples. « Magnifique !» dit Phoebe après l'avoir attaché au cou de Cassia. « Vous êtes Vénus la bien-aimée en personne. » Elle lui donna une petite boule d'ambre à garder dans ses mains pour y répandre sa délicieuse senteur et noua les brides de ses délicates sandales de cuir. Cassia était prête.
Vous venez d'écouter le premier épisode des Rituels de beauté à travers les siècles par l'Officine Universelle Bully. Retrouvez prochainement une nouvelle histoire qui vous fera voyager dans le temps. Nos podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes d'écoute.